Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je désire dans ce sermon vous donner des précisions et des éclaircissements sur la royauté de l'homme, ce qui est particulièrement important dans la crise actuelle, puisque, comme je vous l'ai dit, la royauté de l'homme est un des objets principaux du combat, c'est ce que la révolution cherche à détruire, et pour cela, elle commence par exalter cette royauté en prétendant que l'homme, à travers la démocratie, est un roi, presque même un roi absolu, ce qui lui permet ensuite de mieux l'abattre. Premier principe de la royauté de l'homme, le gouvernement humain doit être tout entier sous l'influence du gouvernement divin. Il me semble que c'est une évidence, mais cela va évidemment beaucoup mieux en le disant et même en le développant. L'homme n'est évidemment pas un roi absolu, d'ailleurs un roi absolu est contraire même à l'idée de royauté. Même Dieu n'est pas un roi absolu au sens moderne. Il gouverne toujours selon sa sagesse. Dieu ne fait pas les choses parce qu'il les veut, il les veut parce qu'elles sont bonnes. Et elles sont bonnes parce qu'elles sont sages, qu'elles sont vraies. Toute autorité authentique ne peut être que le reflet de la sagesse et en définitive le reflet de la sagesse de Dieu. Quand je parle d'autorité, mes bien chers frères, je ne désigne pas des hommes, je désigne une qualité. On pourrait définir l'autorité comme étant le reflet de la sagesse divine qui éclaire des inférieurs. On le voit bien en notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur qui est roi, qui restaure la royauté de l'homme, et qui est un modèle dans l'exercice de cette royauté. Or, juste avant de monter sur son trône, qui est le trône de la croix, son trône au ciel est à la droite du Père, mais son trône sur la terre, c'est le trône de la croix. Juste avant de monter sur son trône, donc le jeudi saint, que fait notre Seigneur? Il lave les pieds de ses disciples. Saint Pierre en est tout étonné et dit à notre Seigneur, « Jamais vous ne me laverez les pieds. » Et notre Seigneur lui répond, « Si tu ne te laisses pas faire, tu n'auras pas de part avec moi au paradis. » Parce que notre Seigneur est en train de leur donner une leçon de royauté. Et si Saint Pierre ne reproduit pas plus tard cette leçon, il n'aura pas de part avec Dieu au paradis. Cette leçon, la voici. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Si donc, moi, maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns des autres. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez comme moi-même j'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous faites ainsi, vous serez bienheureux. Ai-je besoin de développer, mes bien chers frères, l'homme qui ne gouverne pas selon l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la sagesse de Dieu, gouverne soit dans son intérêt propre, et c'est un tyran, soit pour une autre fin que Dieu, et c'est tout le monde moderne, soit pire encore, il met Dieu à son service et pour sa propre gloire, gloire qu'il voudrait être une gloire de créateur, et c'est le Concile Vatican II. C'est le résumé de Vatican II, le résumé de la Constitution Gaudium et Spes. Le Saint-Esprit a été donné à l'homme pour que celui-ci transforme l'univers. Donc, retenez bien cela. Mes bien chers frères, premier principe, le gouvernement humain doit être tout entier sous l'influence du gouvernement divin, avec la conséquence qu'un roi absolu est contraire à la sagesse de Dieu. Même Dieu n'agit pas en roi absolu, il agit en roi sage, et même, on le voit en notre Seigneur Jésus-Christ, en roi humble. Pour cela, la première qualité de l'homme roi est d'être roi de soi-même, sur soi-même, c'est-à-dire d'une part être en plein accord avec la volonté de Dieu, deuxièmement d'être roi de ses passions. Le gouvernement de soi-même est en vue d'un gouvernement plus haut, bien entendu. Par conséquent, la tempérance est une vertu royale, et même l'humilité, nous voulons de le voir. Si un particulier manque à sa mission à cause de ses passions, qui le mettent dans le péché, cela fait comme un trou dans la société. Mais si c'est le roi qui n'est pas tempérant et qui devient esclave de ses passions, alors c'est toute la société qui s'en va à volo. Puisque l'homme est un roi, s'il est esclave de ses passions, cela a des conséquences non seulement pour lui-même, à savoir sa perte, mais pour tous ceux qu'il doit diriger, qu'il doit éclairer, dont il a la charge, etc. C'est vrai pour les rois de la terre, c'est vrai pour les pères de famille, c'est vrai pour tous ceux qui ont des responsabilités, c'est vrai entre les amis, nous allons voir cela. Deuxième et troisième principe. Deuxième principe, le gouvernement humain doit imiter le gouvernement divin. Troisième principe, l'homme conscient de sa royauté s'adresse à des rois. Prenez la famille, dans laquelle le père est un roi. Aristote, philosophe païen, le disait déjà. Nous verrons plus tard comment la mère de famille est associée à la royauté de son mari et par là à la royauté de Dieu. Mais ça sera plus tard. Le père de famille est un roi. Premier principe, le gouvernement humain doit être tout entier sous l'influence du gouvernement divin, d'où l'importance du sacrement de mariage, mais également d'où l'importance de former les enfants à être sous l'influence de Dieu. L'homme est un serviteur roi, il est un serviteur royal. L'éducation donnée par Blanche de Castille à Saint-Louis, futur roi de France, et qui très tôt d'ailleurs était même roi, l'éducation a été comme l'éducation de tout enfant, et même plus stricte, plus sévère, plus exigeante. Parce que je viens de vous le dire, un roi qui est esclave de ses passions ne peut faire que des désastres dans la société. Un père de famille conscient de sa royauté paternelle doit former les enfants à se soumettre à la volonté de Dieu, à la sagesse de Dieu. Je ne vais pas vous faire ici tout un traité d'éducation, mais en résumé, il doit obtenir que dès que les enfants comprennent les choses, ils se soumettent volontairement, de bon cœur, avec intelligence, par eux-mêmes, avec tout leur amour, et non plus dans la simple crainte, ce qui était le cas lorsqu'ils ne comprenaient pas encore. Maman Marguerite, à son fils le futur Saint Jean Bosco, et à ses frères, lorsqu'elle devait s'absenter, « Mes enfants, je ne serai pas présente à la maison, mais Dieu, lui, vous voit. Et même si moi je ne vous vois pas, vous devez vous comporter en présence de Dieu. » C'est très difficile, mes bien chers frères, de former des rois qui ne soient pas orgueilleux. Et c'est très difficile de former des hommes soumis et humbles qui soient en même temps des rois. Une remarque sur l'exercice de la royauté de l'homme avec ses confrères rois, c'est-à-dire les autres hommes. Le prochain lui-même est roi. Par conséquent, nous devons être très attentifs de ne pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et ça, c'est un grand défaut du monde moderne, et hélas, là-dessus, les traditionalistes sont très modernes. Non seulement nous ne sommes pas des maîtres absolus, mais nous ne sommes pas des maîtres universels. C'est vrai, l'amitié donne de l'autorité sur le prochain. Et il est vrai que un homme bien né aime son prochain, même pécheur, il veut lui faire du bien. Et il est vrai qu'un homme bien né, qui a le sens de sa dignité de chrétien, a une réelle autorité sur son prochain. Mais autorité, je vous l'ai dit pour commencer, c'est le reflet de la sagesse divine, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le commandement, ce n'est pas de le remplacer, ce n'est pas de l'humilier, c'est de lui rendre sa dignité. Je viens d'être interrompu, mes bien chers frères, et donc je reprends mon sermon là où j'en étais. Il y a enfin une dernière royauté qui s'exerce en temps de crise, qui est celle de Mgr Lefebvre, celle de Mgr Williamson également, qui étaient de vrais rois puisqu'ils étaient évêques, mais qui est celle également de tous ceux qui ont œuvré pour la survie de la tradition, pour le salut du prochain. La Providence ne leur permet pas toujours de faire tout ce qu'ils veulent, mais elle leur demande toujours de faire tout ce qu'ils peuvent. Retenez bien cela, mes bien chers frères. En période de révolution, il faut être très courageux pour aller jusqu'au bout de son devoir, et il est très facile de ne pas faire tout ce qu'on peut, sous prétexte que cela ne suffira pas à rétablir la situation. Dieu ne nous demande pas de rétablir la situation, il nous demande d'exercer notre royauté jusqu'au bout des capacités qu'il nous donne. De plus, qu'appelle-t-on sauver la situation? En période de révolution, ce qui manque le plus, c'est la lumière divine sur le monde rendu fou par la révolution. La première qualité nécessaire en période révolutionnaire, c'est de ne jamais céder sur les principes. Lorsque notre Seigneur est présent devant Pilate, il sait très bien que celui-ci va finir par le condamner à mort. Mais lorsque Pilate lui pose la question, il proclame hautement sa divinité et sa royauté. Puis après cela, puisque Pilate ne veut rien entendre, il se tait et ne dit plus une parole. Mais cette proclamation de sa royauté et de sa divinité, qui est le principe de toute vie ici-bas, cette proclamation a été faite, elle continue à éclairer le monde dans les siècles qui suivent. Je terminerai, mes bien chers frères, par un quatrième principe, à savoir que l'homme ne peut pas abdiquer sa royauté sans en offenser Dieu. L'homme ne peut abdiquer sa royauté sans offenser Dieu. Cela concerne notamment la vie religieuse. Il serait tout à fait faux de croire que le religieux, par les vœux et principalement le vœu d'obéissance, abdique sa royauté. Non, il abdique ses caprices, caprices qu'on appelle volonté propre, c'est-à-dire volonté qui est personnelle sans être liée à la volonté de Dieu, ça, oui, il l'abdique. Il se laisse former par le vœu d'obéissance, cela, oui, bien sûr. Mais ce vœu d'obéissance a précisément pour objet de purifier et d'élever sa royauté. Et c'est ainsi que les moines, les bénédictins, les chartreux ont eu une telle influence sur le monde pour le christianiser, c'est que le vœu d'obéissance les avait libérés de toutes leurs passions, de tous leurs caprices, et les avait fait dominer, entrer dans la profondeur de la sagesse de Dieu. C'est ainsi qu'ils furent non seulement des lumières pour l'édification de la chrétienté, mais également des modèles. C'est parmi eux, je vous l'ai dit la dernière fois, que l'Église aimait bien et même préférait prendre les évêques. Saint-Martin, Saint-Hilaire. Le premier degré d'humilité dans la règle de Saint-Benoît n'est pas l'obéissance, mais le respect dû à Dieu. Donc, s'il y a des jeunes qui m'écoutent et qui se posent la question de la vocation à la vie religieuse, sachez, mes chers amis, que la vie religieuse n'est pas un écrasement, elle est au contraire une élévation. Hélas, il est trop facile pour des supérieurs d'abuser de l'obéissance que leur doivent leurs religieux pour les priver de toute liberté intérieure et pour en les réduire au rang de simples serviteurs. C'est ce qui se passe actuellement dans l'Église. Le pape François a tyrannisé des évêques qui n'ont pas osé lui résister. Les évêques tyrannisent les prêtres qui cherchent la tradition et les tyrannisent d'autant plus lorsque ceux-ci n'osent pas leur résister. Et, hélas, un grand nombre de mes amis et confrères de la Fraternité Saint-Pédis se sont laissés tyranniser au nom de l'obéissance, ne se rendant pas compte que l'homme n'a pas le droit d'abdiquer sa royauté et qu'une telle abdication, loin d'être une marque d'humilité, est une offense à Dieu. Mais bien, chers frères, je termine. Regnavit a ligno Deus, Dieu a régné par le bois de la croix. C'est dans les épreuves, en portant vaillamment sa croix, que vous serez le plus roi, si vous le faites par fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. On pourra vous humilier, on pourra même vous détrôner, tant que vous, vous n'abdiquerez pas et que vous serez fidèle, conscient de votre dignité de chrétien, conscient de la royauté de notre Seigneur. Le monde ne pourra rien contre vous. Je termine ce sermon en vous rappelant les quatre principes que je vous ai exposés, de manière à ce que vous les gardiez bien en mémoire. Premier principe, le gouvernement humain doit être tout entier sous l'influence du gouvernement divin. Deuxième principe, le gouvernement humain doit imiter le gouvernement divin. Et depuis la venue de notre Seigneur sur la terre, il doit imiter la royauté de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui trône sur la croix. Troisième principe, l'homme conscient de sa royauté s'adresse à des rois ou à des futurs rois. À des rois, ses congénères, ses confrères, son prochain, pour travailler avec eux à l'avènement du règne de Jésus-Christ, ou à des futurs rois, ses enfants par exemple, pour les former. Quatrième principe, l'homme ne peut abdiquer sa royauté sans offenser Dieu. Prenez modèle sur la très sainte Vierge, modèle des rois, parce qu'elle est la mère de Jésus le Christ roi. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, vive le Christ roi, vive Marie reine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.